Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Et Jean Sandin de la House.
Radio Rosana Pipari.
Lo que se reproduce que esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Il y a plein de gens, et pas seulement les minorités sexuelles, qui ne sont pas reconnues par le gouvernement. Et ce film a la possibilité de dire « vous êtes reconnus ».
Et c'est du film Rafiki dont il sera question dans l'escale reportage d'un jour dans le monde. Nous allons au Kenya où ce seul et premier film kényan en compétition à Cannes ne sera pas vu à Nairobi ailleurs parce qu'il parle d'homosexualité. Nous irons voir ce qu'on en dit précisément dans les rues et dans la ville là-bas au Kenya, sous les radars, et Florence Paracuelos avec Facebook qui va faire attention aux fake news de l'étranger avant le référendum irlandais sur l'avortement. Attention, danger pour les journalistes, ça se passe au Monténégro, 18h50, le cinéma en VO avec Eva Bétan, son choix cannois. Ce sont deux films étrangers, deux pour le prix d'un ce soir dans deux sélections parallèles. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et si cette affaire de retrait de l'accord iranien des Américains était la grande chance de l'Europe? On voit ça ensemble dans un instant. Mais avant, rien à voir. On compte par couleur, on compte par ethnie, on parle statistiques ethniques dans Un jour dans le monde, toujours interdite en France. Mais à quoi servent-elles ailleurs? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Michel Vivorca.
Bonsoir.
Vous êtes le sociologue qu'on connaît, vous travaillez entre autres sur la violence, le racisme. Et avec le démographe Hervé Lebras, mais pas seulement, avec d'autres évidemment, vous publiez un petit ouvrage ardu mais passionnant qui s'appelle « Diviser pour unir, France, Russie, Brésil, États-Unis face au comptage ethnique ». Et c'est bien ce qui nous intéresse dans Un jour dans le monde d'ailleurs, voir un peu comment ça se passe ailleurs, pourquoi certains ont choisi de le faire quand nous, on continue au contraire à freiner et à ne pas vouloir y aller, à ne pas vouloir les faire, ces statistiques ethniques. D'abord, avant d'en venir directement, je vois que en Allemagne, en Italie, dans les pays du Nord, eux, là aussi, on refuse la statistique ethnique. Qu'est-ce qui nous rassemble, en fait? Qu'est-ce qui fait que nous, c'est non, quand d'autres, nos voisins anglais, par exemple, les Américains, n'en parlons pas, on dit oui?
Chaque pays a ses traditions, son histoire, sa structure sociale. Et je crois qu'il faut regarder pays par pays, ça c'est la première
chose. Il n'y a pas une histoire commune qui parle dans ceux qui disent non, en fait.
Sur ce type de problème, non. Non, non, des pays peuvent se ressembler à certains égards, et là-dessus être très différent. Donc la première chose, la première leçon que j'ai tirée de cette enquête que nous avons faite, vous avez raison de dire que je l'ai faite avec Hervé Lebras, j'aurais cité les noms de France Guérin-Pâtissé, avec qui ce travail a été mené du début à la fin, mais aussi notre collègue russe, Elena Filipova, et notre collègue brésilienne, Rebecca Igreja.
Et on y viendra, parce que là aussi, les raisons sont très très différentes, effectivement.
Mais bien sûr, parce que c'est pas du tout la même histoire. Et donc, alors évidemment, on peut pas dire que la Russie soit une grande démocratie, mais en Russie, les statistiques ethniques, ça fait partie, depuis très longtemps, enfin ils s'appellent d'ailleurs pas comme ça, mais ça fait partie du paysage, tout simplement parce que c'est lié à la question nationale, et qu'on trouve très commode de pouvoir compter les nationalités, les grandes, les petites, pas seulement de façon négative, mais aussi pour savoir qu'est-ce qu'il faut redistribuer à l'une ou à l'autre.
Et c'est vrai qu'en Russie, on parle moins de couleurs que de nationalités, que de langues, en fait.
Alors, en Russie, c'est avant tout, effectivement, des nations, des groupes définis culturellement. Aux États-Unis, c'est la race, c'est très clair. Au Brésil aussi, c'est très compliqué, parce que alors au Brésil, c'est toute une histoire de métissage.
Exactement, bon, donc, vous voyez, de nuances de couleurs, ce qui est tellement impensable chez nous quand on y songe.
Ah, mais là, attendez, on parle de nuances de couleurs. Vous allez trop vite, Allez-y. Si vous allez aux Antilles, y a des travaux qui montrent qu'il y a, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de façons différentes de décrire des couleurs de peau dans les Antilles françaises. C'est chez nous aussi. Et donc, on est dans des problèmes d'une énorme complexité.
Et mais peut-être que c'est pour ça qu'on n'y est pas, nous, justement à cause de cette nomenclature qui pose des tas de problèmes chez d'autres. On parlait du Brésil, on y viendra. Mais c'est pareil avec les Américains, entre les Noirs et les Hispaniques, ceux qui se reconnaissent blancs, ceux qui se reconnaissent pas blancs. Nous, comment on fait? Parce que si c'était juste Noir, Blanc, Métis, ce serait tellement trop simple. Mais il y a les Antillais, par rapport aux Africains, qui ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui sont issus de la colonisation, d'autres qui sont issus d'autres choses. Ça commence à la nomenclature, le problème, en fait, visiblement.
Ah ben, c'est des catégorisations. Donc on choisit une catégorie, et évidemment, dès qu'on commence à choisir des catégories, les difficultés commencent. Des gens qui ont un père de telle origine, une mère de telle autre, des gens qui veulent absolument être reconnus dans leur particularisme et d'autres qui ne veulent surtout pas. Enfin, et la France est un pays qui surtout est un pays où le modèle dominant dans l'esprit de nos concitoyens, c'est le modèle républicain. Et je crois que c'est ça la grande caractéristique de la France, c'est que d'un côté, on a un modèle républicain qui dit en gros, dans l'espace public, il n'y a que des citoyens comme on dit, libres et égaux en droit. C'est-à-dire, nous sommes tous des individus comme les autres. Rien de plus, rien de moins, d'un côté. Et puis, d'un autre côté, surtout depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années parfois même, des groupes qui commencent à se constituer, qui disent « Attendez, nous, on veut être reconnus comme groupe, dans notre identité collective. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors après, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que aux États-Unis notamment, mais c'est le cas aussi au Brésil, on n'est jamais sûr que la statistique a un effet performatif, comme on dit. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ça marche au-delà du constat et jusqu'à quel point on ne se tire pas une balle dans le pied ? Vous citez quelque chose qui est extrêmement intéressant sur la revanche des petits blancs au moment de l'élection de Donald Trump, où en gros, on apprenait quelque part jusque-là que les Noirs sont pénalisés parce qu'ils sont Noirs. Ça induit donc que les Blancs ont tous les atouts pour réussir. Il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Sauf que non. Il y a évidemment des Blancs qui ne réussissent pas. Et on crée finalement une sorte de radicalisation de la société alors qu'on a voulu, au contraire, la rendre plus égalitaire.
Alors, on est dans des questions de ce genre. C'est-à-dire que ce qui est un avantage à certains égards devient un problème à d'autres égards. Ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas une solution miracle qui règle tous les problèmes. Tout simplement parce qu'on a un mélange de questions qu'on peut appeler culturelles au sens très large du mot, incluant même la religion, qui n'est pas tout à fait la même chose que la culture, d'un côté, et qu'on a des questions sociales, d'un autre côté. Et ce n'est pas parce qu'on reconnaît certains groupes culturellement que l'on va nécessairement dans le sens de la justice sociale.
Mais est-ce qu'on peut dire aux États-Unis, par exemple, que ça a marché, que les discriminations sont réduites parce qu'on est capable de dire, voilà, il y a tant de Noirs, tant d'Hispaniques, tant de Métis, etc. Est-ce que ça a eu un effet salvateur, j'allais dire, ou pas du tout ? Parce que si on regarde les statistiques, la pauvreté, c'est toujours celle des Noirs. En prison, sont toujours les Noirs, etc.
Alors, vous posez une grande question. Nous, on a voulu éclairer le débat. On n'a pas dit, il faut trancher dans un sens ou dans un... Dans les États-Unis, de la fin des années 60, on a commencé à voir se mettre en place des politiques de affirmative action, c'est-à-dire de ce que les Français, qui n'en veulent pas, disent, appellent de discrimination positive. De façon de dire, on en veut. C'est des politiques sociales, je m'explique. On ne dit pas, on va reconnaître la culture des African American, on va parler du jazz, on va parler de la littérature, on va parler du rapport à l'Afrique. Non, non, non. On dit, il y a un groupe structurellement défavorisé, les Noirs, et on met en place des mesures, pas forcément des quotas, ça a été très vite refusé, mais on met en place des mesures qui vont permettre de donner plus de chance aux membres de ces minorités. Alors ça a commencé avec les Noirs, et assez vite sont apparus des débats et des difficultés, parce que des gens sont montés, ont rejoint les couches moyennes, et parfois même davantage, grâce à ces politiques. Mais ceux qui restaient, qui ne bénéficiaient pas de ces politiques, c'était peut-être parfois encore pire. Et même pour ceux qui réussissaient, c'était parfois douloureux. J'ai un ami qui est un des plus grands sociologues américains, noirs, et qui me disait un jour, Michel, et vraiment mondialement respecté, qui me disait un jour, Michel, je ne saurai jamais si j'ai réussi parce que je suis bon ou parce que je suis noir. Vous voyez le genre de problème. Je vais au Brésil un quart de seconde. Alors au Brésil, le débat, alors c'est pareil.
Là, il y a eu des quotas en revanche au Brésil.
Il y a eu des quotas avec des situations parfois hallucinantes.
Voir des photos, c'est ce que vous racontez, c'est complètement dingue.
Alors je voudrais vous citer une anecdote. Dans deux universités distinctes, des gens demandent à bénéficier de l'affirmative action comme noir. Et dans chacun des deux cas, on met en place un comité d'anthropologues qui se réunit. Ce sont deux frères jumeaux, des vrais jumeaux. Et dans un cas, les anthropologues disent « ce monsieur est noir, il peut bénéficier de cette politique ». Et dans l'autre cas, les mêmes anthropologues ou leurs collègues disent « ce monsieur n'est pas noir, il n'a pas à bénéficier bon, ». On arrive à des choses délirantes. Mais en même temps, et moi je suis plutôt pour défendre toutes ces politiques, si on ne fait rien, eh bien les choses ne progressent pas. Et donc comment faire progresser le débat, la réflexion, les politiques publiques, la lutte anti-discrimination ? Si on n'a pas un minimum de connaissances statistiques sur les populations concernées. C'est vraiment des grandes questions.
C'est ce que disent effectivement les tenants de la statistique ethnique chez nous. Mais en même temps, vous parlez des États-Unis. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir en arrière en ce moment. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils avaient pris beaucoup plus d'avance sur nous qu'ils sont déjà dans la phase 2 alors qu'on n'est encore même pas encore dans la phase 1, nous, ou pas ?
Écoutez, j'ai discuté il y a déjà quelques années avec l'ancien dirigeant du recensement américain qui a fait partie de notre programme de recherche. Et qui nous expliquait qu'il n'est pas possible de refaire marche arrière. En réalité, une fois qu'on a introduit dans un pays ce type de données, alors on n'en sort pas. Et non seulement on n'en sort pas, mais tout se complique sans arrêt. Parce qu'il y a sans arrêt des groupes qui se fractionnent, des nouveaux groupes qui apparaissent, des groupes qui ne veulent pas qu'on les compte, soit parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air trop nombreux, soit au contraire parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, tout ça donne des fragmentations, des logiques compliquées, des gens qui demandent à être reconnus avec plusieurs identités, des gens qui demandent à être reconnus avec zéro identité.
On a le droit de cocher plusieurs cases,
oui,
c'est
oui,
intéressant quand on est dans
américain.
Le recensement américain.
Donc,
ouais.
Donc c'est en réalité, c'est un débat permanent. Ces questions-là sont un débat permanent, et je ne vois pas une seconde comment le recensement américain de demain pourrait se passer d'avoir ce type de données.
Et comme vous dites, effectivement, il y a des voix qui s'élèvent, en tout cas pour le recensement de 2020, et on verra ce que ça donne. Ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on fait chez nous, c'est que nous, peut-être pour contourner l'idée, parce qu'on ne voulait pas le faire, on a classifié plus géographiquement, c'est de là que sont nés les ZEP, etc. Est-ce qu'on est les seuls dans ce genre de critères-là ou pas?
Écoutez,
parce qu'au fond, c'est
pas,
géographique et c'est donc social,
pas,
en
je
fait.
Je ne sais pas si on est les seuls, mais je crois que c'est très français d'avoir dit on va essayer de faire de la justice sociale sans introduire des politiques de type reposant sur des statistiques ethniques, et pour cela, donc on joue la carte sociale, pas du tout une carte de reconnaissance d'une différence, quelle qu'elle soit, et on va voir dans des territoires ceux qui sont vraiment structurellement défavorisés. C'est des mesures sociales, et l'intelligence française, c'est que ça a été territorialisé.
Et Michel Vivorca, est-ce que le danger, justement, dès lors qu'on territorialise aussi, d'ailleurs, probablement, c'est comment la politique s'en empare dans ces cas-là? Je vous pose la question aussi parce qu'on parlait de l'exemple brésilien pour continuer à voyager, où le comptage ethnique a varié en fonction des moments politiques dans ce pays-là. Mais au moment des dictateurs, par exemple, hop, on est dans, je ne me souviens plus comment vous appelez ça, comment ils appellent ça, la démocratie, je sais bête parce que le terme
raciale,
est en train de... La démocratie raciale, absolument. Pendant toute la période de dictature, hop, on ne compte plus. Et puis on s'est mis à recompter après.
Mais écoutez, ce sont des phénomènes qui ont beaucoup à voir avec l'état des rapports de force dans la société, avec l'état de la politique. Donc c'est des phénomènes qui bougent. Et regardez, en France, on a énormément parlé de ces questions-là il y a quelques années, à l'époque de Sarkozy. Et puis aujourd'hui, le débat est un peu retombé. Et puis il reflambe, brusquement. Et politiquement, c'est très intéressant. Moi, il y a un épisode qui m'a, comment dirais-je, laissé pantois. C'est le maire de Béziers, M. Ménard, connu pour ses positions, disons, proches de celles du Front National. Il fait des statistiques ethniques.
À la cantine.
À la cantine. Il compte les enfants musulmans. C'est hallucinant de sa part. Je veux dire, c'est le contraire de tout ce à quoi on aurait pu s'attendre. Mais évidemment, on peut penser, et c'est ça la grande affaire, que les statistiques de ce type, ça peut servir à certaines choses et ça peut servir à son contraire. On peut compter le nombre de Noirs dans les prisons américaines pour savoir s'ils sont plus particulièrement victimes de la répression, de la surveillance, etc. Mais d'autres diront, oui, il faut les compter pour savoir s'ils sont plus délinquants et plus criminels que d'autres. Donc les usages politiques, idéologiques qui sont faits de ces données, c'est comme beaucoup de choses, ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans un autre.
Et est-ce que vous diriez, pour conclure, Michel Vivorca, que je me souviens très bien de ce que ça avait soulevé pendant la période sarkozyste, effectivement, et même après, avec cette histoire que vous citiez, Robert Ménard. En gros, est-ce que c'est trop touchy pour qu'on le remette sur le tapis, ou est-ce qu'on va y revenir, de toute façon?
Écoutez,
on doit y revenir.
J'ai choisi de faire ce livre avec Hervé Lebras parce qu'on était opposés, l'un et l'autre. Lui était plutôt contre, et moi plutôt pour. Et plus on discute, et plus on s'aperçoit qu'en fait, on peut arriver à des terrains d'entente. Personne n'accepte que dans le recensement, il y ait ce genre de données. Ça écarte une partie du problème. Tout le monde peut accepter, en tout cas lui comme moi, que des enquêtes limitées, précises, concernant un groupe et privées, puissent exister. On sait compter les Juifs en France, vous savez. Il y a une cinquantaine d'années que des revues de démographie très sérieuses comptent les Juifs de France. C'est pas un problème. Et donc le seul problème qui reste à régler, c'est celui des grandes enquêtes qui sont pas vraiment un recensement, mais qui brassent très très large, comme celle qu'avait fait l'INSEE et l'INED il y a une dizaine d'années.
Allez, c'est passionnant à lire en tout cas. Ça s'appelle « Diviser pour unir France, Russie, Brésil, États-Unis face au comptage ethnique » et c'est publié à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Merci beaucoup Michel Vivorca.
Merci.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Suite d'un jour dans le monde très canois avec une escale au Kenya et le film Rafiki présenté aujourd'hui. On le voit à Cannes mais on ne le voit pas au Kenya parce qu'il parle d'homosexualité. C'est dans les rues de Nairobi que nous allons dans un instant sous les radars. Et Florence Paracuelos, ou comment Facebook essaie cette fois de faire en sorte que le référendum sur l'avortement en Irlande ne soit pas piraté par des fake news venues d'ailleurs. Eva Bétan, retour à Cannes avec deux films étrangers du jour, ou de la semaine d'ailleurs plutôt Eva. Deux films, deux sections parallèles, c'est ça?
C'est ça. Alors l'Amérique des années 50 dans le film de Paul Dano et la Colombie des années 60 dans un film colombien. Pour le premier, c'est l'envers du rêve américain. Pour le second, c'est les débuts du trafic de drogue.
Allez, à tout de suite. Jean-Marc Faux, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le monde à l'envers. Jean-Marc, et si au fond l'Europe avait de la chance avec cette histoire entre Trump et l'Iran, quelle belle occasion pour nous.
Exactement. Après tout, la position hardcore de Trump sur l'Iran offre une occasion historique à l'Europe de prendre la main.
Allez, à tout de suite. Jean-Marc, le tour de la planète passe par le Royaume-Uni. Voici le très British Noel Gallagher, If Love Is the Law. Gallagher sur France Inter, If Love Is the Law. Florence Paracuolos est là. Elle est où ?
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Sous les radars, Florence commence en Irlande dans moins de 3 semaines maintenant. On y reviendra bien sûr dans Un jour dans le monde. Les Irlandais votent pour ou contre la libéralisation de l'avortement.
L'avortement en Irlande, crime puni de 14 ans de prison. Le seul cas où il est autorisé, c'est quand la vie de la mère est en danger. Dans tous les autres, la grossesse doit être menée à terme. C'est l'une des législations les plus sévères d'Europe. Alors un référendum est convoqué pour le 25 mai. On est en pleine campagne. Et quel est, Fabienne, le point commun des récentes campagnes électorale.
Et vous allez me le dire.
Si je vous dis les États-Unis 2016, le Brexit l'an dernier, ben ce sont les tentatives d'influencer le scrutin de l'extérieur via Facebook notamment, qui vient de s'engager à bloquer la propagande étrangère sur le référendum irlandais, comme cette publicité repérée par Transparent Referendum Initiative, un groupe qui écume les contenus en ligne.
This is actually from a
New York-based organization.
Vous avez celle-là, par exemple, postée par une organisation new-yorkaise. Elle fait la promo de la Marche pour la Vie qui a été organisée il y a quelques semaines. Ce groupe qui a dépensé de l'argent pour cette publicité, qui cible les électeurs irlandais, n'aurait pas pu financer directement la campagne, explique ce militant interrogé par CBS News. Les dons de l'étranger sont interdits par la loi électorale irlandaise, comme par beaucoup de lois électorales ailleurs d'ailleurs. Les réseaux sociaux sont donc un bon moyen de la contourner, cette loi. La décision de Facebook est une première, mais Facebook n'est pas tout seul. Un journaliste irlandais a par exemple repéré des centaines de faux comptes Twitter qui alimentent des discussions sur le référendum sur l'avortement. Les influenceurs de scrutin ont donc encore de la marge. Ce qui va être très intéressant à suivre dans les prochains mois, c'est la campagne des midterms américaines avant le vote du mois de novembre. Là, on verra si les pressions ont été efficaces et ce qui se passe pendant cette campagne, Fabienne.
Eh bien, on verra ça, on le suivra, Florence. Évidemment, dans la série Les journalistes qui dérangent et les autorités qui laissent faire, voici le Monténégro qui a toute sa place là-dedans.
Hier, Olivera Lakic, une journaliste d'investigation, a été blessée par balle en face de chez elle. Un homme lui a tiré dans la jambe avant de s'enfuir avec des complices. Olivera Lakic vient d'écrire une série d'articles sur la contrebande de cigarettes au profit de politiciens influents, selon RSF. Elle avait déjà été agressée moins gravement il y a un mois et une première fois il y a 6 ans. En avril, un autre journaliste a vu une bombe exploser devant chez lui. On compte une dizaine d'agressions ces dernières années contre des journalistes. Aucune n'a été élucidée. Les ONG dénoncent le règne de l'impunité. L'ambassade américaine et l'Union européenne disent leur inquiétude. Il y a eu une manifestation tout à l'heure devant le siège du gouvernement à Podgorica avec plusieurs centaines de personnes. Le Monténégro, ancienne république yougoslave, espère entrer dans l'Europe en 2025. La Commission européenne, dans son dernier rapport, encourage pudiquement le pays à améliorer son bilan dans les affaires de crimes organisés.
Et puis Florence, quoi de commun entre la mode et le catholicisme ?
Alors, quelques créateurs inspirés et une exposition inaugurée hier au Met de New York, concoctée par Anna Wintour, le diable en personne, vous savez, qui s'habille en Prada. Elle a négocié pendant 2 ans avec le Vatican pour faire sortir une quarantaine d'habits, de mitres, de tiares, de mules et de férules portées par des papes depuis le XVIIIe siècle. Dans des salles séparées, des robes haute couture signées Gautier, Lacroix, Galliano ou Dolce Gabbana. Corps céleste, la mode et l'imaginaire catholique, c'est le nom de cette expo qui a eu droit hier au discours d'un cardinal pour son vernissage. Et l'on ne peut que penser à cet improbable défilé du Vatican imaginé dans Fellini Roma.
On a les images, c'est
vraiment. Et ouais, des nonnes sautillantes aux cornettes démesurées, des prélats cadavériques en soutane, des évêques à guirlandes lumineuses et un pape à plumes orange. Je vous encourage à revisionner cette scène. L'église de 1972 avait peu apprécié.
Ah bon, étonnant, Florence Paracolos. Merci beaucoup, on se retrouve demain.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca, le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Le temps qu'on rejoindra dans un instant, on a déjà parlé sur Inter, on reparlera de ce film kényan Rafiki, projeté aujourd'hui à Cannes. Première fois que le Kenya est représenté, le film est signé Wanyuri Kawi. Et vous savez déjà la polémique qu'il suscite. On raconte l'histoire d'amour entre deux jeunes femmes, deux ados, filles d'opposants politiques à Nairobi. Le film donc sur l'homosexualité, sur la liberté dans un pays où être gay et puni par la loi ne sera pas projeté au Kenya. Bonjour Laure Boulard.
Bonjour.
Vous avez rencontré l'équipe du film, là où vous êtes, à Nairobi, avant qu'elle ne s'envole pour la France. C'est là que vous nous emmenez, une équipe avant tout qui veut d'abord être fière d'être à Cannes cette année.
Bonjour.
L'équipe, bonjour. Voilà, ça on a déjà entendu Laure Boulard qui nous disait bonjour. Nous ce qu'on veut c'est plutôt écouter la suite. Allez, c'est parti.
Exactement, j'ai rencontré Wanuri Kayou, la réalisatrice, ainsi que les deux actrices principales, Samantha Mugatsia et Sheila Muniva, dans un café branché de Nairobi, et l'ambiance était à la fête. Écoutez Wanuri Kayou.
We're supporting a Kenyan first and I feel like it's a huge distinction.
C'est une première pour le Kenya et à mon avis c'est un immense honneur.
We've been working at this for years as an industry.
Notre industrie du cinéma a travaillé pendant des années pour en arriver là. Cela veut dire que nous sommes aussi professionnels, aussi compétents et aussi créatifs que n'importe qui d'autre. Et il faudrait donc qu'il y ait plus d'investissements dans le marché des films émergents comme le nôtre, car nous avons tant à apporter au reste du monde.
You know, exam results are out.
I get to be a doctor.
Yes.
I can get a scholarship.
Yes.
Il faut dire que l'année 2018 a jusqu'ici été spectaculaire pour la petite industrie du cinéma kényan. Rafiki est le deuxième long métrage distribué à l'international cette année, après Supamodo, un film de super-héros réalisé par Likarion Wainana. Citons également Watu Wote, un court métrage qui revient sur l'attaque d'un bus au nord du Kenya par des terroristes et qui a été nominé aux Oscars cette année. Pour l'équipe de Rafiki, le festival de Cannes, c'est donc une consécration. Et le message que veut porter la réalisatrice sur la croisette, c'est celui d'une Afrique poétique et dynamique.
Let's make a pact that we will never be like any of them down there.
Promettons-nous de ne jamais être comme les autres. Nous, nous vivrons quelque chose de vrai. Voilà le pacte de Kenna et Ziki dans la lumière pastel d'un coucher de soleil sur Nairobi. Car Rafiki, c'est avant tout une histoire d'amour et l'histoire des réactions d'une communauté à cet amour. Le film est inspiré de la nouvelle Jambulatri de l'écrivaine ougandaise Monica Arak Denyeko. Et tout comme dans ce livre, les protagonistes vont tenter de vivre leur idylle en dépit des commérages, en dépit des préjugés d'une communauté fermée et d'une société conservatrice, bref, en dépit du regard des autres.
So for this film to exist,
le fait que ce film existe signifie qu'il y a plein de gens, et pas seulement les minorités sexuelles, mais tout un tas de personnes qui ne sont pas reconnues par le gouvernement, qui ne sont pas reconnues par leur famille.
And this film has a potential to start saying, you are seen.
Et ce film a la possibilité de dire vous êtes reconnu. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer à parler de tout cela? Et puis, on voit très peu d'histoires d'amour venant du continent africain. Donc, il était très important pour nous de mettre à l'écran une histoire d'amour africaine, contemporaine, qui nous montre simplement tel que nous sommes. Car on n'est pas seulement un continent sérieux où il arrive des choses graves. Plein de choses lumineuses et frivoles se passent ici.
Voilà, Elor, une histoire qui prend corps dans un Nairobi qui est dynamique, branché, où les femmes sont à l'honneur.
Oui, à l'image des deux actrices issues du milieu artistique de la capitale, Rafiki fait le portrait d'une ville moderne, cosmopolite, presque hipster.
My name is Sheila Muniva and
je m'appelle Sheila Muniva et je joue le rôle de Ziki.
Ziki.
Hi.
Hi.
We present the I don't want to say the new Nairobi because it's a Nairobi that's always existed.
Ce que l'on montre dans ce film, ce n'est pas tant le nouveau Nairobi, c'est plutôt un Nairobi qui a toujours existé mais qui n'a jamais été vu. Et grâce à mon personnage plein de vie, on peut voir les différentes manières dont les Kenyans aiment s'exprimer.
I would call it almost like afropunk.
Pour moi, ça se fait à travers les couleurs. On pourrait dire que c'est de l'afropunk. Oui, c'est ça, un style afropunk plein de couleurs.
Very colorful afropunk.
À côté d'elle, Samantha Mugatsia, cascade vis et sur la tête renchérie.
Un film avec une bande originale entièrement constituée d'artistes femmes, c'est très rare. Je crois même que c'est une première au
Kenya.
Et je pense que c'est une opportunité géniale pour toutes les artistes qui y ont participé.
Parmi les musiciennes, il y a par exemple l'extravagante Mutoni Drummer Queen, dont le récent album fait le portrait de différentes femmes kenyanes, mais aussi Njoki Karu ou Chemutai Sadje. Quant à l'esthétique du film, elle est inspirée des toiles de l'artiste afro-américaine Micaline Thomas et des œuvres de la kenyane Wangechi Mutu.
Voilà, alors et pourtant, Laure, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de très grandes chances pour que les Kenyans ne puissent jamais aller voir Rafiki, en tout cas dans leur pays.
Tout à fait, le coup près est tombé le 27 avril dernier. Dans un communiqué, le comité de classification des films kényans a annoncé la censure du film, l'accusant de faire la promotion de l'homosexualité et d'aller à l'encontre des valeurs du pays. Alors rappelons que les relations sexuelles gays sont punies par la loi au Kenya et que le directeur du Comité national de classification des films, Ezekiel Mutua, est connu pour être extrêmement conservateur. Karim Ugo, qui est membre de la Commission pour les droits des gays et lesbiennes au Kenya, n'est donc pas étonné.
La communauté LGBT est victime de nombreux actes de violence. Il y a la discrimination, mais aussi des expulsions forcées, des viols correctifs, du harcèlement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'art a beaucoup à apporter au débat sur l'identité sexuelle au Kenya. Les tentatives de raconter ce type d'histoire sont de plus en plus nombreuses. Mais notre comité de classification des films continue de dire que l'on ne peut pas montrer ces choses-là ou en parler publiquement. On voudrait pouvoir voir ce film ici, au Kenya. Alors on espère que cette reconnaissance internationale va nous permettre de le projeter dans notre pays.
Voilà, en tout cas, la bataille ne fait que commencer. Beaucoup assurent que l'interdiction du film ne fera qu'attirer encore plus d'attention sur la question. La réalisatrice, elle, affirme que cette décision ne fait que nier une réalité qui existe bel et bien au Kenya.
Voilà, je le dis quand même au passage, les choses pourraient bientôt changer. Plusieurs ONG ont saisi la justice kenyane tout récemment. Elles contestent la constitutionnalité de la pénalisation de l'acte sexuel entre personnes du même sexe. Donc on attend un résultat qui devrait arriver. Laure Broulard, ce sera dans les prochains mois. Vous viendrez évidemment nous en parler. Et sinon, tiens, bonjour Laure.
Bonjour.
Allez, Eva Bétan pour d'autres films canois. Et là, et c'est maintenant.
3, 2, 1...
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action.
Le cinéma en VO version canoise, évidemment, ce mercredi. Mais avec oui. Vous, Eva. Alors, on a parlé de Rafiki à l'instant, le film kényan. Vous avez été chercher pour nous, dans les sections parallèles, deux films. D'abord, on est dans la semaine de la critique, Eva. Ça s'appelle Wildlife, de Paul Dano, un immense acteur et un premier film.
Ah, mais attendez, Paul Dano, je le rappelle quand même, pour ceux qui auraient oublié, c'est le garçon muti qui est à l'arrière de la voiture dans Little Miss Sunshine.
Formidable.
Génial.
Avec une mèche dans l'œil tout le temps.
Oui, dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, dans The 12-Year-Old Slave de Steve McQueen. Il y a chez lui l'ambiguïté, l'étrangeté, la fragilité, la démesure possible. Et il fait sa première mise en scène. Et il est subtil. Et il est délicat. Et je pense qu'il est bon. Oui, oui, bon. Ne voyez pas de niaiserie dans la bonté. Vous regardez ce film et vous vous dites, c'est en douceur, c'est une famille de la classe moyenne, modeste, dans les années 50. Et puis, vous voyez que ça se lézarde. Le père est instable. Il n'arrête pas de déménager de ville en ville parce que, ou il quitte, ou il perd son travail. La mère qui a l'air si proprette, c'est Carey Mulligan. À un moment donné, vous dites, mais c'est pas possible. Elle est là, elle flirte, mais ouvertement devant son fils. C'est comme s'il n'était pas là. Et c'est fait avec cette subtilité. Il y a tout. Alors on pourrait se dire, elle craque, mais c'est plus subtil que cela. On pourrait se dire, il y a tout ça et rien n'est dit et tout est montré. Et la grande intelligence, c'est qu'il ne quitte jamais le point de vue de l'enfant. C'est extrêmement dur à faire et ça, il y arrive. Paul Dano.
Je comprends très bien ce point de vue. Moi-même, j'ai déménagé dans une autre ville quand j'avais 14 ans, comme le garçon du film. Je me souviens de ce que c'était que d'avoir le sentiment que le monde autour de vous a changé. Vous commencez à avoir des contrastes. Il y a toujours de la joie, de l'innocence, mais tout d'un coup, il y a aussi de la lutte. Vous découvrez que ses parents sont imparfaits, qu'ils sont humains, que le monde est imparfait. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il regardait la situation familiale déchirante dans laquelle se trouve l'héroïne avec compassion, sans porter de jugement. Il s'agit de moments dans la vie où quelqu'un part en vrille, et cela peut nous arriver à tous.
Allez, ça s'appelle Wildlife, Eva,
oui,
c'est signé...
Oui, il parle d'un livre, je précise que c'est inspiré d'un livre de Richard Ford.
Voilà, c'est bien, on a bien compris, c'est bien précisé, il s'appelle Paul Dano, vous avez adoré. Allez, un suivant, c'est un film colombien, ça s'appelle là, Les oiseaux de passage.
Oui, c'est ça. Alors, vous allez me dire des Colombiens qui parlent de la drogue. Oui, bien sûr. Mais justement, ils en parlent autrement. Et pas avec les archétypes. On est dans les années 70. Dans les années 60, plutôt. Mm-hmm. Ça se passe, et déjà, la bonne idée, c'est de faire ça dans une tribu indigène qui a une culture puissante, avec le système de la dot, par exemple, avec des femmes très fortes, avec la lignée qui se transmet par les femmes. Et comment la drogue arrive? La drogue, c'est la marijuana au début. C'est la bonne idée, la fausse bonne idée. C'est un type qui dit, ah oui, bah finalement, ça rapporte peut-être plus de planter de la marijuana. Vous voyez, il y a les hippies américains qui sont là, que le café. Ça commence aussi innocemment que ça. Mm-hmm. Et là où c'est vraiment très intéressant, c'est que vous allez avoir la montée en puissance. Il y a ça, ça va vite dans la drogue. Hein. Vous passez de du hashish transporté à dodane, de la marijuana à dodane, à l'avion. Ça va très vite. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, c'est un film très puissant, parce que je vous dis, il y a cet ancrage culturel. Et en même temps, il refuse le spectaculaire pour aller vers ce que c'est vraiment, c'est-à-dire une tragédie. Écoutez les deux réalisateurs. Elles s'appellent Cristina Gallego et Ciro Guerra.
Nous voulions raconter cette histoire-là, celle de l'arrivée d'un capitalisme sauvage dans une région, dans un pays qui était rural à l'époque. C'est basé sur une histoire vraie, cette période en Colombie, au cours de laquelle nous avons commencé à faire du trafic de marijuana dans les années 60-80. C'est à ce moment-là que s'est ouverte la route du trafic vers les États-Unis, via les Antilles, une route qu'on prendra plus tard la cocaïne. Mais dans un premier temps, ça a été la marijuana.
C'est une histoire méconnue, y compris des Colombiens. C'est pour cela que nous avons voulu l'aborder par le cinéma, avec un regard neuf. Parce que nous pensons que le cinéma ne doit pas glorifier les trafiquants. Il ne doit pas en faire des héros. Avec ce film, nous voulions regarder autrement la tragédie que cela signifie pour notre pays.
Les oiseaux de passage. Eva, j'ai oublié le nom du réalisateur.
Deux réalisateurs, Cristina Gallego et Ciro Guerra.
Allez, tant que je vous tiens, et rapidement, il nous reste une petite vingtaine de secondes. Les films en compétition, tant qu'on y est, Eva.
Alors. Super, il y a un film égyptien qui s'appelle Yomedine de Shawki. C'est une sorte de road movie dont le héros est un lépreux. Et il y a le film très attendu du russe Kirill Serebrennikov, qui, vous savez, est assigné à résidence en Russie. Le film s'appelle Leto.
Allez, vous nous parlerez de ça, évidemment. Merci beaucoup. Puis
avec
on parle
plaisir.
De Cannes à 19h, ce sera tout à l'heure avec Philippe Randet. Merci, Eva.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Dans Un jour dans le monde, Jean-Marc, l'annonce hier soir du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien continue évidemment de susciter beaucoup de réactions dans le monde. On y reviendra tout à l'heure évidemment avec Sébastien Paour. Le monde s'interroge sur le risque d'une crise de reprise du programme nucléaire iranien. Les Européens sont très inquiets, mais dans votre monde à l'envers, ce soir, vous renversez un peu les perspectives. Et si cette décision de Trump, finalement, était une chance pour l'Europe.
Ah, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on est mal. Hein. C'est même un peu la cata. Un accord multilatéral négocié par tous pendant des années risque de tomber à l'eau. Les dirigeants européens qui étaient tous allés à Washington, comme on va à Canossa pour plaider la cause de l'accord, tous ces dirigeants donc viennent, prenons une image, de se prendre la porte du saloon dans la figure. Et voici même, et ça c'est le pompon, que les entreprises européennes prêtes à investir sur le grand marché iranien, 80 millions de personnes, rappelons-le, sont désormais menacées de sanctions par Washington. Bref, l'Europe semble prisonnière du chantage américain. Alors maintenant, regardons la une, Internet, aujourd'hui, du grand hebdomadaire allemand Der Spiegel. La voici, je vous la montre ici en studio. Angela Merkel, Emmanuel Macron, côte à côte, l'air songeur et ce titre, Europastunde, c'est l'heure de l'Europe. Eh bien oui, le Spiegel a raison, la décision de Donald Trump nous offre une formidable chance. En plus, ça tombe pile le 9 mai, le jour de l'Europe.
Alors expliquez-nous quand même, en quoi cette catastrophe est une chance, parce qu'on est d'accord pour dire quand même que c'est la cata.
Ben, c'est tout bête, première série de raisons, c'est l'occasion d'acter formellement la cata. Prenons acte, une bonne fois pour toutes, de plusieurs faits qui disent la fin d'une époque. 1. Les États-Unis de Trump ne sont pas des partenaires fiables. Dans cette équipe désormais composée uniquement de durs, de faucons, le viol d'un traité international est une bricole. C'est pourtant sans précédent. Sur le climat, sur le commerce, sur l'Iran, les engagements de Washington ne valent rien. Dont acte. 2. Le système international des dernières décennies est par terre. Les accords multilatéraux n'ont plus de valeur. Et l'Alliance Atlantique, États-Unis-Europe de l'Ouest, pilier des 70 dernières années, ne marche plus. Trump préfère à l'Europe d'autres alliés, israéliens ou saoudiens, Dont acte. 3. Stop à la volonté américaine de se poser en gendarme économique mondial. Les États-Unis ont décrété le principe, vous le savez, d'extraterritorialité sur le commerce mondial. Concrètement, ils estiment que toute transaction en dollars les regarde. Et ils menacent donc ainsi de représailles les Total, Siemens, Airbus, Renault, qui veulent faire du commerce avec l'Iran. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a reconnu chez nos amis de France Culture ce matin. Cette situation, je cite, « n'est plus acceptable ». Dont acte, là encore, il est grand temps de le dire.
Donc, ok Jean-Marc, on se fait plaisir, on dit du mal des Américains, et après ?
Après, c'est ça le grand enjeu. L'Europe va-t-elle enfin oser aller plus loin ? Non seulement dénoncer le monde ancien, mais initier un monde nouveau. Là encore, 3 idées. 1. Avancer d'un même pas ensemble, bref, signifier qu'il existe une diplomatie européenne. L'occasion est unique. Les 3 poids lourds du continent, Londres, Paris, Berlin, sont sur la même ligne sur le dossier iranien. Les 3 dirigeants se sont entretenus dès hier soir. Alors allez-y, lancez des initiatives, proposez quelque chose à l'Iran. C'est une formidable opportunité de replacer l'Europe sur la carte diplomatique. 2. Chercher à changer les règles du commerce international. À minima, négocier des exemptions de sanctions américaines pour les entreprises européennes ou contourner ces sanctions en passant des accords indirects avec des pays tiers et des sociétés locales iraniennes. À maxima, dénoncer juridiquement l'extraterritorialité, cette tyrannie made in USA, tout faire pour développer le rôle de l'euro dans les échanges internationaux. Après tout, la monnaie commune a été créée pour ça aussi, pas pour laisser le dollar continuer d'être maître du monde. 3. Renvoyer, par cette attitude, une image d'utilité, d'efficacité aux populations européennes. Bref, c'est un outil concret face à l'euroscepticisme montant. Alors tout ça, reconnaissons-le, c'est improbable. L'Europe n'a jamais réussi jusqu'à présent à saisir ce genre d'opportunité. Madame Merkel, Madame May, Monsieur Macron, sautez enfin sur l'occasion. Osez !
Voilà, bah vous avez l'injonction de Jean-Marc Four, donc il ne vous reste plus qu'à y aller, vous l'entendez. Le 18-20 continue juste après le journal, il est 19h.